enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Sept miracles de l'évangile de Jean. Si vous avez fait attention en lisant l'évangile de Jean, vous allez voir qu'il y a sept miracles. Est-ce que Jésus n'a fait que sept miracles? Non, il en a fait bien plus. Même Jean lui-même dira à la fin de son évangile, s'il fallait écrire en détail tous les miracles que Jésus a fait, je ne crois pas que même toutes les bibliothèques du monde suffiraient pour contenir tous les livres qu'il faudrait écrire. Oui, Jésus a fait beaucoup de miracles, mais Jean choisit sept miracles conduits par l'Esprit Saint. Il veut donner plus d'importance à ce que Jésus a dit plutôt qu'aux miracles. Et les miracles qu'il va sélectionner ne sont pas là pris au hasard, mais dans un ordre bien précis, avec un message et un enseignement bien précis. Et c'est ce que nous voulons retirer au travers de ces études, les sept miracles de l'évangile de Jean. On a fait une introduction la dernière fois, on a parlé des noces de Cana, on est parti sur cette introduction du but de l'évangile de Jean, Jean 20, 30, nous dit que Jésus a fait en présence de ses disciples beaucoup de miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Dans le but, ça c'est Jean lui-même, par l'Esprit, qui nous donne le but de son évangile, c'est écrit dans un seul but, afin que vous ayez la foi, que vous croyez que Jésus est le Christ, le Messie, et qu'en croyant en son nom, vous ayez la vie, pas seulement la vie éternelle, pas seulement que vous ayez la vie plus tard, c'est-à-dire que vous soyez sauvés de la mort éternelle, sauvés de la perdition éternelle, mais que vous ayez la vie dès maintenant, et la vie en abondance, la vie en nous, Christ en nous, Jésus qui vit en nous. L'apôtre Paul dit, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, et c'est de cette vie-là dont il est question. Et cette vie, comment l'avons-nous? L'évangile de Jean est écrit dans ce but-là, que vous croyez que Jésus est le Christ, et qu'en croyant en son nom, vous ayez la vie. Souvenons-nous, je fais un rappel des épisodes précédents, souvenons-nous que l'évangile de Jean est différent des trois autres. Les trois premiers évangiles, Matthieu, Marc, Luc, qu'on appelle les évangiles synoptiques, ont été écrits bien avant l'évangile de Jean. Jean a été écrit plus tard, alors qu'il était sur l'île de Patmos, exilé, Jean va écrire son évangile avec un but différent de celui des trois premiers évangiles. Jean ne s'adresse pas à des inconvertis, à des païens, il s'adresse à des chrétiens. Et le message de l'évangile de Jean est un message pour des chrétiens, un petit peu comme si Jean voulait dire, vous avez cru en Jésus, vous avez reçu le Sauveur, vous avez reçu le Seigneur, vous avez cru qu'il était le Christ, le Messie. Mais j'aimerais, au travers de cet évangile, vous montrer bien plus encore, vous amener à plus encore de vie, d'intimité, de communion, de profondeur. Et cet évangile amène le chrétien qui va l'étudier, qui va le lire, à avoir une foi plus forte, à avoir une foi plus grande, à avoir une connaissance plus proche du cœur de Dieu. Les sept miracles, c'est l'eau changée en vin, on l'a vu la dernière fois, c'est la guérison du fils d'un officier royal, c'est ce que l'on va considérer aujourd'hui, c'est la guérison d'un paralytique à la piscine de Bethesda, c'est ce qu'on verra dimanche prochain, c'est la multiplication des pains pour les 5000 hommes, c'est pour la prochaine fois encore, Jésus marche sur les eaux, c'est la guérison d'un aveugle né, c'est la résurrection de Lazare de Béthanie. On est chanceux parce que au mois de mars, il y a 5 dimanches. C'est rare, hein? Mais ça nous fait un dimanche de plus, comme ça. On a donc 5 dimanches encore pour voir ces 6 prochains miracles. Nous avons vu lors de la dernière étude, que la parole est le commencement. Au commencement est la parole. La parole, c'est la genèse de la foi. Il ne peut pas y avoir de foi sans parole. La foi, elle vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend est basé sur la parole de Christ. La foi doit et ne peut que venir de la parole. La foi vient de ce que la parole vient venir réchauffer notre cœur. L'Esprit va venir vivifier cette parole et nous conduire à la foi. La parole est donc la base, le commencement de toute chose. Et on verra au travers de ces différents miracles qu'il y a toujours place à la parole. Dans tous ces miracles, il est question de foi. Le mot foi, le mot croire est présent dans tous les miracles, mais il y a aussi toujours une place pour la parole. Et on verra que dans tous ces miracles, il n'y a aucun miracle sans parole, mais que tous ces miracles ont eu lieu parce que la foi a été basée, appuyée, une réponse à la parole que Jésus a donnée. On a vu la dernière fois que, on va résumer, concernant l'eau changée en vin, une phrase clé, la mère de Jésus va dire « Faites tout ce qu'il vous dira ». La foi, c'est entendre cette parole, mais c'est obéir à cette parole et c'est faire ce qu'il nous dit. Faites tout ce qu'il vous dira. On a vu dans ce dernier miracle que Jésus a été invité. On a vu la relation entre la mère de Jésus et Jésus lui-même. Le cas des 6 jarres de pierre destinées aux purifications, l'obéissance de la foi, le vin et ce qu'il annonce, la crucifixion, la gloire qui a été manifestée. C'est comme ça que se conclut ce miracle et c'est comme ça qu'on a laissé ce passage avec le verset Jean 2,11. Tel fut à Cana en Galilée le commencement des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Ça, c'est la version à la seconde. La version plus classique, nouvelle édition de Genève, dit « Le premier des miracles que fit Jésus ». Le premier des miracles est la Genèse. Ça nous rappelle au commencement la Genèse. Le premier des miracles que fit Jésus à Cana. Et le résultat, il a manifesté sa gloire. Les disciples ont été surpris. Tout le monde a été surpris. Aucun miracle n'avait eu lieu avant ce moment-là. Ils ont été surpris d'être là en présence d'un homme qui a changé l'eau en vin. Ils ont dit, mais qui est celui-ci? Et même plus tard, ils seront surpris encore. Mais là, c'est le premier miracle qu'ils vont constater, voir de leurs propres yeux. Ils vont avoir une conclusion face à ce miracle. Ses disciples crurent en lui. Ce miracle a amené la foi, a amené plus de foi, a manifesté la gloire de Jésus et a fait grandir la foi. Eh bien, c'est un peu le but aussi de nos soirées, que ces miracles puissent venir nous faire grandir dans la foi et venir affermir notre foi. Ça a été le premier des miracles. Des miracles. Le mot miracle ici en grec, c'est le mot séméion, qui veut dire littéralement un signe, une marque, un témoignage. C'est le mot séméion. En français, on peut retrouver un mot avec la même racine grecque. Par exemple, le mot sémaphore. Vous savez, les petits drapeaux qu'il y a sur les bateaux. Sémaphore. Ou alors, la sémantique, en linguistique. Le mot séméion, c'est donc un signe. Le miracle, en soi, n'a pas de but. Le miracle n'est rien en lui-même. Le miracle est là comme un signe. Il est là pour attirer l'attention. Et il est là pour confirmer la parole. Le miracle en soi ne doit pas être cherché. On ne doit pas chercher le miracle pour le miracle. Le miracle est là pour confirmer la parole. Il est là pour affermir la foi. Il est là comme un signe, une manifestation. Pour le non-chrétien, pour le non-croyant, le miracle peut être un signe qui va lui faire ouvrir les yeux en disant « Mais que se passe-t-il ? Quel est donc ce miracle ? Quel est donc ce prodige ?» Et va l'amener avec une curiosité à essayer de savoir ce qui s'est passé. C'est le cas de Pierre et Jean qui vont au temple à la prière. Sur le chemin se trouve un paralytique assis à la porte du temple appelé la Belle. Et il est là, ce paralytique, demandant l'aumône. Et Pierre et Jean vont dire simplement « On n'a pas d'or, on n'a pas d'argent ». Mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il y a un miracle. Et ce miracle va amener toute une foule dans le temple à s'attrouper autour de Pierre et de Jean pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? On l'avait vu, ce paralytique, et maintenant on le voit debout, chantant, louant Dieu dans le temple. Que s'est-il passé? Le miracle a eu lieu afin que le message de l'Évangile puisse être proclamé à toute cette foule. Conclusion de cette prédication, 5000 personnes qui donnent leur cœur à Jésus, qui vont se convertir. Le miracle a eu lieu dans un but précis. Et aujourd'hui encore, si nous voulons voir un miracle, Il faut que l'on se pose cette question, mais pourquoi je demande un miracle à Dieu? Quel est le but du miracle? Un miracle qui n'est pas un signe, un miracle qui n'a pas le but, on va dire, suprême, de manifester la gloire de Jésus, de manifester la gloire de Dieu, ne sert à rien. Dieu ne va pas faire un miracle pour un miracle. Le miracle doit manifester sa gloire, doit être là comme un témoignage attestant qu'il est le véritable, que sa parole est vraie. Le miracle est là comme une démonstration, les signes et les prodiges qui accompagnent la parole, qui accompagnent ceux qui ont cru, qui accompagnent la proclamation. Allez par tout le monde, proclamez cette bonne nouvelle, et voici les signes et les prodiges qui accompagneront cette proclamation. Premièrement, proclamer, et le miracle vient là comme attester, confirmer. Si j'ai insisté là-dessus, on va y revenir tout à l'heure, vous verrez pourquoi. Jean nous relate sept miracles, mais entre ces sept miracles, il y a autre chose dans l'évangile de Jean. Il y a quoi? Il y a des paraboles, il y a des discours, il y a des enseignements, et Jean va donner davantage d'importance à cela. Dans Jean chapitre 1, c'est le prologue, au commencement était la parole était auprès de Dieu, la parole était avec Dieu. On connaît ce passage en faisant un petit peu la synthèse de tout ce qu'il y a là avant Jean chapitre 4, on pourrait y passer des soirées, c'est tellement riche. Il y a le témoignage de Jean-Baptiste qui va proclamer « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Je peux pas résister à ouvrir une parenthèse pour dire, c'est pas seulement qu'il efface le péché, mais il l'ôte. On n'efface pas seulement, il ôte le péché. Il efface les péchés et il ôte le péché. Et quand on lit l'Épître aux Romains, on voit que quand l'apôtre Paul parle dans Romains 6, il est question des péchés et il est question du péché. Il y a les péchés, nos fautes, nos transgressions ont été lavés, nous avons été lavés dans le sang de l'agneau. Oui, il nous a pardonnés, il nous a lavés, nos péchés sont effacés, d'accord. Mais pas seulement nos péchés anciens sont effacés, mais le péché, le principe du péché, l'emprise du péché sur nous est ôtée. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il y a aussi l'appel des premiers disciples, quand Jésus leur dit tout simplement « Venez ». Et vous verrez, ils ont suivi Jésus, il y a ce que Philippe va dire à Nathanaël, « Viens et vois ». Il a entendu Jésus lui dire « Venez et voyez ». Alors il va redire ce qu'il a entendu dire de Jésus, « Viens et vois ». Il est venu, il a constaté. Et Nathanaël, dès le départ, va faire cette proclamation, « Tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël ». Dès le départ, dès le premier chapitre de l'évangile de Jean, le message est clair. Jésus est le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Au chapitre 2, il y a les noces de Cana, il y a les vendeurs chassés du temple, le zèle de ta maison me dévore. Jésus a repris cette parole, tout à l'heure Laurent a souligné ce verset. Il y a aussi cette parole de Jésus, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai, détruisez ce temple. Et Jean nous précise, comme pour nous dire attention là dans tout ce que vous allez lire, attention à bien comprendre tout ce qui est écrit. Et Jean nous dit, il parlait du temple de son corps. À cette époque, quand Jésus a dit cette parole, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai, le temple d'Hérode était là depuis peu, et les travaux étaient terminés, ça avait pris des années et des années, quelques dizaines d'années, et voilà que Jésus dit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai, mais il parlait du temple de son corps. Et au bout de 3 jours, il ressusciterait. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a le chapitre 3, c'est l'entretien de Jésus avec Nicodème. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3:16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a de nouveau le témoignage de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste dira, il faut qu'il croisse, et que moi je diminue. Et Jean-Baptiste dira, le Père aime le Fils, il a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Dès le départ, on n'est qu'au 3e chapitre de l'évangile de Jean, et le message est clair. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Celui qui croit a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas, la condamnation demeure sur lui. Celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean chapitre 4, et on arrive à notre chapitre d'aujourd'hui, c'est l'histoire de la Samaritaine, Jésus qui passe par la Samarie. Jésus est en Judée et il fait le trajet pour remonter en Galilée. Et entre la Judée et la Galilée, il y a la Samarie. Alors Jésus passe par la Samarie et là, au puits de Sichar, il va rencontrer une femme. Il y a tout un dialogue, il y a tout un enseignement aussi. Et après, une fois que Jésus a traversé la Samarie, il arrive en Galilée. Et il arrive où ? Il arrive dans un petit village que vous devez connaître. Il arrive à Cana. Et Jean, comme s'il nous suivait dans notre étude, nous dit « Souvenez-vous de ce qui s'est passé à Cana. » Jésus arrive à Cana, là où il a changé l'eau en vin. On va le lire ensemble dans Jean, si vous avez votre Bible, dans Jean chapitre 4, et on va lire à partir du verset 43. Jean chapitre 4, verset 43. Après ces deux jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Il retourna donc à Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi, dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée, en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils, qui était près de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Comme il descendait déjà, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle, « Ton enfant vit !» Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux, et ils lui dirent, « Hier, à la septième heure, la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, « Ton fils vit !» Et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Jean a choisi, toujours conduit par le Saint-Esprit, bien évidemment, de nous raconter ce deuxième miracle à Cana, pour faire comme une transition, une suite. N'oubliez pas que ce qu'on disait tout à l'heure, si Jean a choisi sept miracles, c'est pas des miracles qu'il a choisis au hasard, mais c'est parce qu'il y a là un enseignement, là, dans chacun des miracles, il y a comme des marches, des étapes. Premier miracle nous invite à croire dans cette parole, bien évidemment, mais à obéir. Faites tout ce qu'il vous dira. Et maintenant là, Jean nous invite à une deuxième étape dans la narration de ce deuxième miracle à Cana. Il retourna donc à Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. On est là, à Cana. Est-ce que vous avez la carte du coin en tête? Cana, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, par rapport à Nazareth, par rapport à Capernaum. Alors regardez, je vous ai fait une carte. Il y a Cana, c'est ici. Ça se situe dans la montagne, sur les hauteurs. Il y a le petit village de Nazareth, qui est en dessous, Nazareth, la ville d'où vient Jésus. Et il y a Capernaum, qui est au bord du lac de Tibériade. Ce lac, ça s'appelle le lac de Tibériade, mais c'est un autre nom. Ça s'appelle aussi le lac de Génézaret. Et il a encore un troisième nom, la mer de Galilée. Le lac de Tibériade, le lac de Génézaret ou la mer de Galilée, mais c'est toujours ce petit lac qui est là. Donc, cet officier du roi est là à Capernaum. Il apprend que Jésus est à Cana et il va faire tout le voyage. Il fait le chemin, ça prend combien de temps pour aller de Capernaum à Cana? Ça prend un certain temps. c'est pas, il n'y a pas de transport en commun, on est là à pied, ça prend bien une dizaine d'heures pour aller de Capernaum à Cana. Il est là, en bas, dans une sorte de plaine, dans le lac, au bord du lac de Génézareth, on est un petit peu en dessous du niveau de la mer, et il doit monter jusqu'à Cana. Cet homme entend parler de Jésus. Il entend qu'il s'est accompli quelque chose, que Jésus a fait des miracles. Vous allez dire, non, c'est que le deuxième miracle. Si, c'est le deuxième miracle que Jean va nous raconter, mais il y a eu des miracles. Juste auparavant, Jean 4, 45, il dit, ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête. Juste avant, Jésus était à Jérusalem, en Judée. Après, il traverse la Samarie pour aller en Galilée. Jésus est à Jérusalem. Mais quand il est à Jérusalem, là, Jésus fait beaucoup de choses, tout. Et la traduction parole vivante va dire, ils avaient vu tous les miracles qu'il avait fait. Et même la traduction Semeur va dire, ils avaient vu tous les miracles qu'il avait fait. Jean ne nous dit pas combien, nous donne pas de détails sur ces miracles. Mais il y a eu là beaucoup de miracles, et ces gens ont vu tous les miracles. Alors pourquoi Jean dit c'est le deuxième miracle? Parce que c'est le deuxième miracle en Galilée. D'accord? On est là donc en Galilée, cet homme est à Capernaum, il entend, il a appris. Il a appris que Jésus se trouve, à Cana, et cet homme a entendu que Jésus est à Cana, il a certainement entendu parler de tous ces miracles qui se sont produits à Jérusalem, et il décide de faire le chemin de Capernaum à Cana. Si cet homme n'avait jamais entendu parler de Jésus, il n'aurait jamais fait le chemin. Si cet homme n'avait pas su que Jésus était si proche, si cet homme avait dit « Oui, mais Jérusalem, c'est loin, moi je suis à Capernaum, Jérusalem, c'est trop loin, et mon fils est en train de mourir. » Mais cet homme apprend que Jésus n'est pas si loin, que Jésus est proche, que Jésus est là, à Cana, et il décide de faire ce chemin. Cet homme a appris, et heureusement qu'il a appris. Je ne sais pas qui lui a dit, mais béni soit celui qui a pu dire à cet homme, tu sais, Jésus, celui qui a fait tant de miracles à Jérusalem, il est là, à Cana. Est-ce que cet homme a exhorté cet officier en disant, tu sais, Jésus a fait des miracles, et ton fils est malade? Et je te vois dans la peine, la douleur, la souffrance, parce que ton fils est malade. Jésus est là, pas loin, à Cana. Vas-y. Je ne sais pas si on l'a encouragé à y aller, mais en tout cas, lui, il décide d'y aller. En ce qui nous concerne, nous savons où est Jésus. Est-ce que vous savez où il est? Il s'est pas dit, il est pas loin, hein? Il est là, au milieu de nous. La parole dit, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je serai au milieu de nous. Il est là, au milieu de nous. Et quand quelqu'un dans ce monde est là, malheureux, attristé, à cause d'un fardeau, à cause d'un problème, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va lui dire, je sais où est Jésus, prends courage, je sais où il est, vas-y, va le rencontrer, il est celui qui peut répondre à ton problème, il est celui qui peut pourvoir à ton besoin, je sais où est Jésus. L'apôtre Paul va faire un raisonnement tellement simple, ça se trouve dans Romains chapitre 10, il dit, celui qui invoque le nom du Seigneur est sauvé, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment est-ce qu'ils vont pouvoir invoquer celui en qui ils n'ont pas cru? Mais comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Mais comment entendront-ils parler de lui sans prédicateur? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Comment est-ce qu'ils pourront croire si personne ne leur dit? Comment est-ce qu'ils vont pouvoir mettre leur foi en Jésus s'ils ne connaissent pas Jésus? Comment est-ce qu'ils vont croire en celui dont ils n'ont jamais entendu parler? Mais pour en entendre parler, il faut des proclamateurs qui sont envoyés. Et comment est-ce qu'il peut y avoir des proclamateurs, des prédicateurs, s'ils ne sont pas envoyés? Alors, peut-être que maintenant, là, vous êtes en train de dire, oui, c'est vrai, il faut plus de proclamateurs, il faut plus... Et qui sont ces proclamateurs? Qui sont ces prédicateurs? Est-ce que vous vous sentez concerné? Est-ce que Jésus dit, quand Jésus va dire, allez par tout le monde, proclamez cette bonne nouvelle, allez par tout le monde, annoncez cette bonne nouvelle, il appelle, parce que là, Paul va dire, mais Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Mais Jésus lui-même nous a envoyés, m'a envoyé, vous a envoyé, chacun avec une mission particulière, d'accord? Mais nous sommes tous appelés, envoyés, à proclamer cette bonne nouvelle et à dire « Jésus est pas loin, il est pas loin de toi, il est là proche, il a fait des miracles à Jérusalem ». Et on peut dire, parce que cet homme de Capernaum, les gens disent « mais nous l'avons vu, nous étions à la fête à Jérusalem et nous avons vu les miracles que Jésus a fait ». Eh bien, nous, nous pouvons pas dire aussi, nous pouvons vous dire ce que nous avons vu. Voilà ce que Jésus a fait dans ma vie. Voilà ce que Jésus a fait dans ma famille. Voilà ce que Jésus a fait pour moi. Et proclamer, et parler, et venir faire apprendre, afin que chacun puisse ensuite prendre sa décision. Cet homme, en entendant parler de Jésus, il dit certainement, c'est de Jésus dont j'ai besoin. C'est lui qui pourra faire quelque chose pour moi. Il a appris. Et parce qu'il a entendu parler de Jésus, il décide de quitter Capernaum, de monter jusqu'à Cana, de faire les 10 heures de marche à pied, et ça monte, hein, c'est pas plat, et il va jusqu'à Cana chercher en Jésus le secours dont il a besoin. S'il fait tout ce déplacement, c'est quand même quelque part parce qu'il croit. Parce que s'il pensait que ça servira à rien, il se serait pas déplacé. S'il fait tout ce déplacement, c'est parce que quelque part en lui-même, il y a de l'espoir, il y a de l'espérance, il y a une attente en disant « je vais y aller parce que j'espère et je crois qu'il va se passer quelque chose. C'est le seul, le dernier recours que j'ai en ce qui concerne mon fils. » Il arrive, il se trouve devant Jésus et il est dit qu'il pria Jésus. Prier, c'est un peu plus que demander. Il n'est pas venu en disant, en demandant à Jésus. Il l'a prié. Il pria Jésus. Jésus dira dans un autre contexte, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Demandez et l'on vous donnera. Ça semble tellement simple. Et franchement, je crois que trop souvent, on a tendance à compliquer l'évangile. Jésus n'a pas dit des choses compliquées. Certains vont dire, non, c'est trop compliqué, j'y comprends rien. Jésus a dit simplement, demandez, et vous recevrez. Mais si vous ne demandez pas, vous n'allez pas recevoir. Demandez, et vous recevrez. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Et Jésus va dire à plusieurs reprises, dans les autres évangiles, et même dans l'évangile de Jean, on le retrouve, qu'il te soit fait selon ta foi. Tu es venu, tu as demandé, et tu vas recevoir selon la foi que tu as toi-même exprimée, manifestée, qu'il te soit fait selon ta foi. Ta requête, je te donne ce que tu demandes parce que tu l'as demandé. Tout simplement, demandez et l'on vous donnera à cet homme et allez prier et allez demander afin de recevoir. Et c'est la première étape pour recevoir. Pensez pas que l'on va recevoir si on ne demande pas. L'apôtre Jacques va dire certains prient et ne reçoivent pas parce qu'ils demandent mal. C'est une autre affaire. Mais là, simplement, si on reste dans cette simplicité de l'évangile, venir à Jésus, pas se tromper, venir à Jésus, venir auprès du bon, du seul, de l'unique, sauveur, seigneur, celui, il n'y a pas d'autre médiateur entre Dieu et les hommes, il n'y a que Jésus-Christ fait homme. Venir auprès de Jésus, demander pour recevoir, chercher pour trouver, frapper, et l'on vous ouvrira. J'ai pas de montre, je veux pas trop déborder, mais non, ça va aller, vous me faites signe si c'est trop long, mais je vais me permettre un développement particulier sur ce verset pour montrer que là encore, il y a tout un trésor. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. C'est pas la même chose. Demandez, cherchez et frappez. C'est trois choses différentes. Et il y a là une progression. Demander, c'est facile. Un enfant, quand il a faim, un bébé, quand il a faim, il demande. Même si c'est en plein milieu de la nuit, hein. Il va pleurer, il va crier, il va demander. Même l'apôtre Pierre va utiliser cette image dans son épître en disant « Comme des enfants nouveau-nés désiraient le lait spirituel et pur qu'est la parole de Dieu. » Avoir cette soif, ce désir comme un enfant nouveau-né qui demande, et un enfant qui demande dans la nuit parce qu'il a faim, s'il ne reçoit pas, il s'arrête, hein. Il dit, non, ma maman est fatiguée, elle doit pas venir. Alors, je vais attendre plus tard, on va attendre une heure ou deux, et quand elle sera reposée, je demanderai à manger. Non, il demande jusqu'à recevoir. Et tant qu'il n'a pas obtenu ce qu'il désirait, il continue à demander, et à demander encore. Jésus nous enseigne aussi cette persévérance dans la prière. Demandez, et l'on vous donnera. Il y a demander, ensuite il y a chercher. L'enfant, quand il grandit, et quand il va demander à ses parents, quand il commence à être un peu plus grand, la maman ou le papa va dire, écoute, t'as qu'à chercher, hein. Ils viennent demander qu'on leur trouve leurs affaires à leur place. Ils veulent demander que tout soit prêt, tout soit fait, et on dit, non, cherche un peu, là. C'est pas loin, c'est dans ta chambre, cherche. Tu veux, c'est dans le placard, cherche. Et en grandissant dans la foi, Seigneur, oui, a répondu à notre prière lorsque nous avons demandé. Mais il nous invite ensuite à grandir dans cette maturité spirituelle. Et plus seulement demander là et être là comme des oisillons qui ouvrent le bec jusqu'à recevoir la nourriture qui tombe là toute cuite, mais chercher. Pas seulement demander maintenant. Et le Seigneur dit, mais maintenant il faut que tu cherches aussi. Il faut que tu cherches dans la parole. Il faut que tu cherches ma face. Il faut que tu fasses cet effort de chercher. Mais tu trouveras. Cherchez et vous trouverez. Et il y a ensuite une troisième étape qui est comme un peu plus difficile, mais qui est là dans une plus grande maturité. C'est frapper. Frapper. La porte est fermée. Il y a là comme une porte fermée en disant, mais c'est pas possible, on peut pas passer, il y a un obstacle, la porte est fermée. Eh bien, je frappe jusqu'à ce que... Ah non, mais quand même, on peut pas frapper. Si la porte est fermée, c'est qu'elle est fermée. Non, non. Jésus nous enseigne que même si la porte est fermée, il nous encourage à frapper jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Un peu comme cet ami qui va frapper à la porte de son voisin, un de ses amis, en plein milieu de la nuit, parce qu'il a plus de pain et il y a un ami qui est arrivé. Il va frapper en disant « Donne-moi du pain !» Et son ami va dire « Écoute, on est déjà tous couchés là, tu nous déranges, ça se fait pas de venir frapper à la porte des gens en pleine nuit !» Et il dit « Non, non, il frappe !» Jusqu'à obtenir du pain. Jésus nous donne cet enseignement dans le cadre de la prière, là encore. Cherchez, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Cet homme vient vers Jésus pour demander. Il prie Jésus. Mon fils est en train de mourir. Il se meurt. J'ai besoin de toi. Viens. Et Jésus va lui donner une réponse bien surprenante. Et si vous êtes attentif à ce qu'on lit, à ce que vous avez lu dans l'Évangile, c'est pas la première fois que ça se passe comme ça. Pas longtemps, Lynn nous parlait de cette femme d'origine syrophénicienne, et puis Jésus va lui répondre d'une manière surprenante. Elle vient pour que sa fille soit délivrée du démon, et Jésus va lui répondre en disant « Non, non, c'est pas bon que les petits chiens prennent la nourriture des enfants. »« Quoi, Seigneur, quelle parole tu me dis ?» Et voilà que là, cet homme, Jésus va lui dire « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez donc point. » Cet homme vient en disant « Seigneur, j'ai besoin de la guérison, du miracle pour mon fils. » Et Jésus va dire « Si vous ne voyez des prodiges, des miracles, vous ne croirez donc point. » Et si cet homme vient, s'il a fait cet effort de faire 10 heures de marche, de quitter Capernaum, en plus, rappelons-le, c'est un officier du roi, c'est un homme important, c'est un homme qui a une réputation et qui accepte de monter voir Jésus, même si ça va nuire à sa réputation, même si on va dire dans le milieu, parce que c'est un juif, qu'on va dire à la synagogue, quand même, cet homme est allé voir Jésus, qui n'est qu'avec les pauvres, avec les gens de mauvaise vie, qu'avec des prostituées, qu'avec des voleurs. Comment toi, qui es d'un certain niveau social, tu vas monter vers Jésus, tu vas aller le voir, lui? Oui, cet homme accepte tout ce qu'on pourra dire sur lui, parce qu'il croit que ça en vaut la peine. Il va voir Jésus. Et alors qu'il demande à Jésus de venir dans sa maison afin qu'il se délivre, qu'il guérisse son fils, Jésus va lui donner cette réponse surprenante. Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croirez donc point. Déjà aux noces de Cana, il s'était passé à peu près la même affaire. Quand Marie avait interpellé Jésus en lui disant « Seigneur, ils n'ont plus de vin !» Et Jésus va répondre à Marie « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Et pourquoi Jean nous relate ces paroles? Parce que Jean veut nous amener à bien réaliser le but, ce qui est en train de se passer. Il y a là un but pédagogique. La réflexion que Jésus va donner à Marie, que Jésus va donner à cet homme, sont là pour nous amener à bien comprendre les choses de la bonne manière. Pour pas qu'on soit là juste dans le miracle en disant « Oui, c'est l'histoire d'un homme qui est venu, qui a demandé, qui a reçu. » Non, Jésus veut bien, il apporte cette réflexion, non pas pour décourager cet homme, mais pour que l'enseignement soit clair en disant « Attention, attention à ne pas chercher le prodige et le miracle pour avoir cette foi ferme et solide. » Et pourtant, c'est ce qui se passe. Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez donc point. C'est là comme une constatation que Jésus va faire concernant la foi de cet homme et qui nous interpelle, nous. Et si Jean nous cite cette parole, c'est afin que ça nous interpelle en disant « Est-ce que nous ressemblons, nous aussi, à cet homme ?» Cet homme n'était pas chrétien. Cet homme ne connaissait pas Jésus. C'est la première fois qu'il le voit. On peut le comprendre. Et on peut comprendre sa foi. On peut comprendre le contexte. On peut lui pardonner. Mais en ce qui nous concerne, est-ce que nous allons venir devant Jésus de la même manière? Et est-ce que Jésus pourrait nous dire à nous aussi, si vous ne voyez des prodiges et des miracles et des prodiges, vous ne croirez donc point? Où en est notre foi? Est-ce que nous avons besoin de prodiges et de miracles pour croire? Est-ce que vous êtes de ceux qui allaient dire « Ah, si seulement nous voyons les prodiges et les miracles d'antan, d'autrefois !» En France, on entend souvent ce genre de réflexion. Des gens vont dire « Oui, on se souvient du réveil qu'il y avait en France, c'était dans les années 30, 1930, où il y a eu là des prodiges, des miracles, des choses extraordinaires. Où sont ces miracles? Où sont ces prodiges? Si ces choses avaient lieu au milieu de nous, nous croirions davantage. » Et Jésus dit justement, attention, c'est pas la foi, elle doit pas être basée sur le prodige et le miracle. La foi, elle vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Notre foi ne doit pas être basée sur le surnaturel et sur l'extraordinaire, mais notre foi doit être basée sur sa parole. Le miracle, oui, je crois au miracle, mais le miracle, c'est le signe qui va venir attester que la parole est vraie. Le miracle, c'est la confirmation de la parole. Mais ce que nous devons chercher, c'est la parole. Ce que nous devons chercher, c'est Jésus, plus que le miracle. Ce que nous devons chercher, c'est le donateur, plus que le don. Et pas nous approcher de Jésus avec intérêt, en disant « Moi, je viens à l'église parce que j'ai besoin. Moi, je viens ce soir à l'église parce qu'il y a un besoin dans ma vie. » Et s'il n'y avait pas de besoin, vous ne seriez pas là? Moi, je te prie, Seigneur, je t'aime parce que j'ai un besoin. Et s'il n'y a pas de besoin, on ne l'aime pas. Seigneur, je viens devant toi, je cherche ta face parce que j'ai besoin de toi. Et si le besoin n'est pas là, on ne cherche plus sa face? On ne cherche plus la communion avec lui? La foi doit être basée sur sa parole. Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croiriez point. Le miracle n'est pas la chose primordiale, la chose la plus importante. Et c'est certainement aussi une des raisons pour laquelle Jean n'a choisi que de citer sept miracles et de consacrer plus de temps dans son évangile à la parole, au discours, à l'enseignement, aux paraboles que Jésus va apporter, plutôt qu'aux miracles. Souvenons-nous du contexte. Tout à l'heure, je vous ai fait un petit résumé de ce qui s'était passé avant d'en arriver à Cana avec cette guérison. Avant, juste avant, Jésus était où? Ah, vous avez suivi? Juste avant d'être à Cana, en Galilée. À Cana pour la deuxième fois, hein, la première fois c'était pour les noces. Jésus était où juste avant? À Jérusalem, d'accord? Il était à Jérusalem pour la fête. Mais Jérusalem, c'est en Judée. Jésus monte en Galilée. Entre la Judée et la Galilée, il y a Samarie. Et Jean, chapitre 4, verset 1er, ça commence avec Jésus en Samarie. Et l'histoire de cette femme samaritaine. Et il y a un lien. Vous savez, là on est en train de considérer un miracle, de considérer ce qui s'est passé à Cana. Mais il y a un enchaînement. Et Jean, là, nous conduit dans une série et une suite logique. Et si on considère d'un peu plus près ce qui s'est passé en Samarie, ça va nous aider à comprendre ce que Jésus est en train de dire. À Samarie, Jésus rencontre cette femme. Il y a tout un dialogue, tout un discours qui va s'engager entre lui et elle, qui va l'amener progressivement à réaliser que celui qui est en face d'elle, ce c'est celui qui donne de l'eau et que l'on n'a plus jamais soif quand on boit de cette eau. C'est celui qui est le Christ, le Messie. C'est celui qui va lui parler d'une manière divine en disant « Tu as eu 5 maris et celui avec qui tu es n'est pas ton mari. » Elle va dire « Je vois que tu es prophète. » Parce qu'il y a là une révélation. C'est cet homme, c'est cette femme qui va retourner dans son village en disant « Je viens de parler avec un homme. Ne serait-il pas le Christ ?» Et alors Jésus va être invité à parler dans ce village. Et dans ce village, il va y rester 2 jours. C'est comme ça que nous avons commencé notre lecture. Après ces deux jours passés en Samarie, dans ce village. Et dans ce village, Jean 4:41, nous dit « Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole. » Ils ont cru à cause de sa parole. Il disait à la femme « Ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons que c'est vraiment lui, le sauveur du monde. » Au début, le village croyait à cause du témoignage de cette femme. Et quand nous rendons témoignage, nous suscitons la foi. Et la foi peut être basée sur notre témoignage. Mais la foi ne doit pas rester basée sur notre parole, mais sur sa parole. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont dit, oui, au début, on a cru en Jésus à cause de tout ce que tu nous as raconté. Mais maintenant qu'on l'a entendu nous-mêmes, maintenant qu'on est venu nous-mêmes, qu'on l'a rencontré nous-mêmes, on croit à cause de ce que nous avons entendu. Et la conclusion, il est vraiment le sauveur du monde. Est-ce qu'ils n'ont pas tout compris? Jésus est le sauveur du monde. Ils sont restés 2 jours avec lui. Il y a eu combien de miracles en Samarie? Il y a eu combien de miracles parmi ces Samaritains? Aucun. Aucun miracle et pourtant ils croient. Aucun prodige, aucun signe extraordinaire. Juste la parole. Et cette parole les amène à croire que Jésus est le sauveur du monde. J'ouvre une parenthèse, une de plus, pour dire que là, on est dans un contexte juif, c'est vrai. Jésus est venu pour parler à la nation d'Israël, c'est vrai, mais les Samaritains, c'est pas des Juifs. Et eux comprennent avant l'heure, avant que Pierre ne soit sollicité pour proclamer la parole aux païens, eux ont compris que le Messie d'Israël est pas venu seulement pour Israël, mais qu'il est venu pour le monde et qu'il devient aussi leur sauveur. Nous qui sommes du monde samaritain en dehors de la nation d'Israël, Jésus est notre sauveur. Il est vraiment le sauveur du monde. Ils ont compris que Jésus était leur sauveur. La croix n'a pas eu lieu. Juste la parole, ce que Jésus a proclamé, pas de miracle, pas de prodige. Et ils ont là une compréhension, une révélation, une foi claire, simple, limpide et vraie de qui est Jésus et de ce qu'il est venu faire. Et alors on comprend que Jésus va réagir différemment quand cet homme qui vient de la nation d'Israël va dire « Viens Seigneur, parce que j'ai mon fils qui est en train de mourir, j'ai besoin d'un miracle pour que tu guérisses mon fils. » On est là dans un village où ils vont confesser « Il est le sauveur du monde, nous avons besoin d'un sauveur. » Mais là, cet homme dit pas « J'ai besoin d'un sauveur dans ma vie, j'ai besoin d'un sauveur dans ma famille. » Non, il dit « J'ai besoin du miracle, j'ai besoin de la guérison, j'ai besoin que mon fils soit guéri. » Eux, ils ont cru juste à cause de la parole. Et ne croyons pas, et je pense que c'est peut-être une déviation, ne croyons pas que c'est le miracle qui amène à la foi. Le miracle, c'est le signe qui peut amener à ouvrir les yeux, à se poser la question en se disant « Oui, c'est vrai, il se passe quelque chose. » Souvenons-nous de ce récit que Jésus lui-même va faire. Je ne dis pas une parabole, je dis un récit. C'est l'histoire du riche et du pauvre qui s'appelle Lazare. Le riche est là, il a abondance de biens. Le pauvre se nourrit des miettes qui tombent de la table du riche. Il est là comme un chien. Les deux vont mourir. Le pauvre se retrouve dans le sein d'Abraham, au ciel. Le riche se retrouve dans un lieu de tourment, où il souffre. Et là, il va appeler Abraham, et le riche va dire, « Je te demande donc, père, » donc il parle à Abraham, « d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, qu'il leur rapporte son témoignage afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Voilà que cet homme réalise que pour lui c'est fini, qu'après la mort il ne peut plus changer sa destinée. C'était avant qu'il fallait qu'il réfléchisse à ce qui va se passer après la mort. Il se dit « Maintenant pour moi c'est trop tard, mais j'ai 5 frères et j'aimerais pas que mes frères arrivent dans le même lieu où je suis. » Je veux que mes frères se repentent, et il utilise le mot repentir. Je veux que mes frères se repentent et changent de voie et soient sauvés et soient avec Lazare dans le sein d'Abraham. Alors il fait cette requête à Abraham. Abraham, renvoie Lazare. Si c'était possible, renvoie Lazare auprès de mes frères afin qu'ils soient sauvés et qu'ils ne viennent pas en enfer avec moi. Et voilà ce que va répondre Abraham. Abraham répondit: ils ont Moïse et les prophètes. Comprenez, en ce temps-là, le Nouveau Testament n'est pas encore écrit. Ils ont Moïse et les prophètes, ça veut dire ils ont la parole de Dieu. Et je reviens, au commencement est la parole. Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. Abraham, et c'est l'enseignement que Jésus apporte au travers de cette histoire, va dire, même si un mort ressuscite, il ne croirait pas, parce qu'il refuse de croire à la parole. Et nous, des fois, on est là en disant, s'il y avait un miracle, s'il y avait un prodige, il y aurait des conversions en abondance. Mais s'il refuse de croire dans la parole, quand bien même il y aurait des prodiges et des miracles. Ce n'est pas le prodige et le miracle qui amènent la foi, c'est la parole. Non, non, Père Abraham, si quelqu'un des morts va vers eux, ils vont se repentir. Et Abraham va dire non, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader. Et entre nous, soit dit, si on réfléchissait bien, si demain le journal de Montréal avait un grand titre, un mort ressuscite, à l'église évangélique de la Rive-Nord. Oula! Alors là, après, on téléphone. Hé, allô, c'est dans mon église, hein? Notre église, c'est la meilleure que les autres. Regarde, un mort ressuscite dans mon église. Ah, c'est mon pasteur. Regarde, hé, mon pasteur, lui, il ressuscite le mort, hein, pas le vôtre, hein. Ce serait pas comme ça, un petit peu, non? Ah là là, nous, on est les plus spirituels du Québec. On a des résurrections d'entre les morts dans notre église. Non, nous, on est spirituels, on serait pas comme ça, si? Ça risque d'arriver, hein. Faut faire attention, hein. Je crois que des fois le Seigneur dispense ses grâces avec parcimonie parce que de peur qu'on s'attribue la gloire qui lui revient. À lui seul soit toute la gloire. Mais s'il y avait un miracle, s'il y avait une résurrection d'entre les morts ou un autre miracle, en gros titre dans le journal, qu'est-ce que mettrait le journaliste? La médecine s'est trompée, on a cru qu'il était mort, mais il n'était peut-être pas vraiment. Et signe paranormal, ressuscite sous l'effet des astres, il y avait 2 planètes qui étaient alignées. Non mais, Raël, évidemment, aurait quelque chose à dire. Est-ce que le journal mettrait « Gloire à Dieu !» Alléluia ! Que la gloire soit rendue à notre Dieu, Jésus est vivant. Par la puissance de son nom, cet homme est ressuscité d'entre les morts. Mais le miracle, c'est un signe. Si on veut un miracle pour un miracle qui va rien produire derrière, c'est pas la peine de chercher ce miracle. Et en ce qui nous concerne, si nous cherchons un miracle dans notre vie, si on a besoin d'une guérison, si on a besoin d'une délivrance, si on a besoin d'un secours qui vient d'en haut, et c'est légitime, et c'est bien, et qu'on puisse avoir cette grandeur d'âme et dire « Seigneur, ce que je te demande, c'est pas seulement pour que j'aille mieux. » Ce n'est pas seulement pour que mon enfant soit guéri. Ce n'est pas seulement pour que là, il y ait un peu de réconfort et un peu de mieux dans cette famille. Mais c'est pour que ton nom soit glorifié. C'est pour que les médecins voient ta gloire. C'est pour que ma famille inconvertie puisse dire son Dieu. Il est celui qui a répondu à sa prière. C'est pour que le monde puisse dire oui, Dieu est grand et c'est lui qui a fait ça. C'est pour ça que quand il y a un miracle, on n'a pas le droit de se taire. On n'a pas le droit de garder ça pour nous. Il faut le proclamer. Il faut le dire, il faut le crier sur les toits, afin de rendre gloire à Dieu. Au commencement est la parole, la foi, elle vient de la parole. Cet homme entend Jésus lui dire, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croirez point. » Et pourtant, il continue. Il va dire, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » Cet homme va lui dire, « Seigneur, je suis venu te prier de venir dans ma maison parce que mon fils est en train de mourir. » Jésus va apporter un enseignement au travers de cette réflexion. Cet homme ne se décourage pas. Il va dire, « Seigneur, je suis là. » Et je te demande, et je te demanderai, s'il faut demander maintenant, s'il faut chercher, je chercherai, s'il faut frapper, je frapperai. Je veux, Seigneur, obtenir ce pourquoi je suis venu. Viens, descends, avant que mon enfant meure. La prière de cet homme est là, encore plus pressante. Viens, Seigneur, dans ma maison, avant que mon enfant meure. Est-ce que Jésus a répondu à sa prière? Non. Non. Jésus n'a pas répondu à sa prière. Cet homme vient en disant, « Jésus, descends chez moi, viens dans ma maison. » Est-ce que Jésus est allé dans sa maison? Non. Cet homme est là pour la guérison de son fils, d'accord. Mais dans sa tête, il a fait déjà tout le scénario, il a déjà fait tout le plan. « Je vais venir chercher Jésus, je vais amener Jésus avec moi. Il va venir dans ma maison, il va imposer les mains à mon fils et mon fils sera guéri. » Et des fois, ça nous arrive aussi. De demander, de prier, en disant « Voilà comment le Seigneur va faire. Ça va se passer de telle et telle manière, et ensuite de telle et telle manière. » Mais le Seigneur peut répondre d'une autre manière. Et le Seigneur répond. En conclusion, le Fils est guéri de la même manière. Il est guéri, mais ça ne s'est pas produit, ça ne s'est pas déroulé comme il l'avait imaginé. Il aurait pu se décourager en se disant « Mais je voulais que Jésus vienne. Si Jésus ne vient pas, mon fils ne peut pas être guéri. » Mais Jésus lui dit « Ton fils vit. » Et nous, de la même manière, on peut avoir nos étapes en disant « Voilà le processus qui va se dérouler. Il y aura ça. Ensuite, il va se passer ça. » Et quand on voit que la première étape s'ébranle et que finalement, elle ne va pas avoir lieu, on dit « Mais on ne pourra jamais arriver là au miracle. On ne pourra jamais arriver à l'exaucement de la prière parce que ça ne se déroule pas comme je le pensais. » Mais ça peut se dérouler autrement. Et la foi, c'est de croire ce que Jésus dit. Jésus va dire, ton fils est vivant. Tout simplement, crois, va, ton fils vit. Jésus ne répond pas à la prière précise, au plan, au modèle, au schéma que cet homme veut lui donner, mais il va lui donner néanmoins la guérison de son fils. Ton plan, ton fils vit, va, lui dit Jésus, ton fils vit. Cet homme crut à la parole. Notez bien que cet homme-là, il n'a que la parole pour croire. Il n'y a rien à voir. Son fils est à 10 heures de marche. Jésus lui dit, ça y est, ton fils est vivant. D'accord, Seigneur. Je vois rien, moi. Mais si tu le dis, ça revient à dire ça. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de signaux de fumée, il n'y a rien. Il n'y a pas moyen de savoir. Il y a juste un mot de Jésus, va. Ça y est, je te l'accorde, va, ton fils vit. Mais Seigneur, c'est tout. J'aurais préféré que tu viennes et te voir poser les mains sur mon fils, et voir la guérison. Mais là, tu me dis que mon fils est guéri, mais il n'y a rien, il ne se passe rien, je ne vois rien. La foi, c'est cette ferme assurance que les choses qu'on espère, elles s'accomplissent. C'est croire contre toute espérance, et c'est être là sûr que ce que Jésus a dit, c'est vrai. Je vois rien, je sais rien, je contrôle rien. Mais si tu l'as dit, Seigneur, sur ta parole, et il est bien écrit, cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il redescendit. Il est descendu, retourné à Capernaum, sans avoir rien vu. Il est descendu à Capernaum sans avoir rien vu. Il a cru. Dans un autre registre, je ne veux pas être trop long, je ne sais pas quelle heure il est là. Bon, alors c'est juste une petite parenthèse. Alors, souvenez-vous de l'affaire de la fille de Jaïrus. Jaïrus vient chercher Jésus parce que sa fille de 12 ans est malade et sur le point de mourir. Et Jésus va répondre, cette fois-ci, en disant « Oui, je vais venir avec toi, je vais aller chez toi. » Et pourquoi je vais aller chez toi? Pour faire l'enterrement? Non, pour guérir ta fille. Donc Jésus répond « Oui à cet homme, je viens pour guérir ta fille. » Mais en chemin, on vient lui dire, ta fille est morte, c'est pas la peine de déranger Jésus. Et il est dit, Jésus, sans tenir compte de ses paroles, Jésus ne tient même pas compte de ses paroles, va dire à Jaïrus, ne crains pas, crois seulement. Je suis en train de venir pour guérir ta fille, et ta fille sera guérie. » Cet homme rentre chez lui, et alors qu'il est en train de rentrer chez lui, ça doit être un moment terrible, on va dire éprouvant. On pourrait appeler ça l'épreuve de notre foi. Cet homme-là, il a 10 heures de marche. Il a le temps de réfléchir. Il est venu vers Jésus, il a dit « Jésus, viens !» Jésus a répondu quelque chose qu'il a peut-être pas tout à fait compris. Il dit « Seigneur, non, viens, parce que mon fils est en train de mourir. » Jésus lui dit « Vas-y, c'est fait, ton fils est vivant. » Et il redescend. « Tu es sûr que ton fils est vivant, là? Tu es sûr que tu aurais pas dû quand même prendre Jésus? Qu'est-ce que tu as, là? Concrètement, rien. » J'ai quoi? Juste ce que Jésus a dit. Et notre foi, bien souvent, est éprouvée de la même manière. On est là en disant « Mais j'ai quoi? Concrètement, j'ai quoi? Rien. Juste sa promesse. Juste sa parole. » Et le diable est celui qui vient, ce serpent rusé, qui vient avec toujours le même slogan, la même phrase. « Dieu a-t-il réellement dit ?» Croyez pas que le diable est venu auprès de cet homme et lui dire « T'es sûr que tu as bien entendu ? T'es sûr que tu as bien compris ? T'es sûr que Jésus a pas dit « Va, rentre chez toi » parce qu'il voulait se débarrasser de toi ? Tu es sûr que ton fils est vivant et qu'il va s'en sortir ?» Jésus l'a dit. De la même manière, notre foi est éprouvée. Et il faut bien prendre conscience que notre foi est éprouvée et que cette épreuve dans notre foi, eh bien, doit amener la gloire pour notre Seigneur. Souvenez-vous de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, alors que Jésus était là dans les moments de trouble et qu'il allait bientôt avoir la crucifixion, Jésus va dire à Pierre, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous tribler comme le blé, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. » Simon, Satan vous a réclamé pour vous tribler comme le blé, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi... Jésus voit clair que le but du diable, c'est de nuire à la foi, c'est d'atteindre, de détruire la foi de Simon-Pierre. Et Jésus va dire « J'ai prié pour toi ». Et il dit pas « J'ai prié pour toi afin que ça se produise pas, afin que finalement tu sois pas criblé comme le blé, afin que finalement le diable n'essaye pas de t'atteindre ». Non, il dira pas « J'ai prié pour toi afin que tu n'aies pas d'épreuve, j'ai prié pour toi afin que tu sois protégé dans un cocon ». Non, il dit « J'ai prié pour toi afin que tu t'en sortes et que ta foi, elle tienne et qu'elle ne défaille pas. J'ai prié afin que ta foi ne défaille pas ». Et l'apôtre Pierre s'en souvient. Donc, ce qu'il écrit après dans sa première épître, « L'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra ». Et quand notre foi est éprouvée, comme de l'or que l'on va passer au travers du feu, et l'or que l'on va chauffer va perdre toutes ses saletés, va perdre toutes ses impuretés, va devenir de plus en plus pur. De la même manière, notre foi, lorsqu'elle est éprouvée, va rendre gloire, louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lorsque la foi de Job a été éprouvée, les anges avaient les regards sur Job. Et le résultat, ça a été la gloire rendue à Dieu. Voici le serviteur Job, serviteur de Dieu, qui tient bon dans la foi. Et de la même manière, lorsque nous sommes éprouvés dans la foi, croyez bien que les êtres célestes nous regardent, les anges nous regardent, l'enfer nous regarde. Et quand on tient bon, ça rend gloire à Dieu. « Oui, Seigneur, je crois ce que tu m'as dit, ce que tu m'as dit s'accomplira. » En chemin, on vient lui dire « Ton fils vit », et il reconnut que c'est à la même heure, exactement, quand Jésus a dit « Va ». Et là, ça fait un grand « Ouf, c'est vrai, il le voit enfin, il le voit enfin, j'ai bien fait de croire, de persévérer, je vois enfin l'accomplissement de cette promesse ». Et je vais insister là-dessus maintenant, il reconnut donc que c'était à l'heure même où Jésus lui avait dit « Ton fils vit », et il crut, lui et toute sa maisonnée. Trouvez pas ça surprenant? Vous allez dire, non, il n'y a rien de surprenant. Ben, attendez. Il crut. Il ne croyait pas avant. Attendez, cet homme vient vers Jésus parce qu'il croit. Ensuite, il dit que quand il redescend, il crut à la parole. On l'a lu ensemble. Cet homme redescend de Cana à Capernaum parce qu'il croit dans cette parole que Jésus lui a dit, « Va, ton fils vit ». Mais maintenant, Jean précise, il crut. Il y a là comme un autre degré de foi, un autre niveau de foi. Au début, il a cru dans la guérison de son fils. Et là, on comprend maintenant ce que Jésus a dit. Et c'était comme une parole prophétique. Si vous ne voyez des prodiges et des miracles, vous ne croyez point. Et maintenant qu'il a vu, pas seulement qu'il a entendu, mais qu'il a vu s'accomplir la parole de Christ, maintenant qu'il a vu la guérison de son fils, il croit. Et il croit à la manière des Samaritains maintenant. Celui-ci est vraiment le sauveur du monde. Il croit à la manière des Samaritains. Oui, il est le Messie d'Israël. Oui, il est mon sauveur. Oui, il est le Fils de Dieu. Et sa foi est encore plus ferme et plus forte. C'est un homme qui ne croyait pas, qui était là loin de Jésus, qui vient vers lui parce qu'il y a un besoin. Et quand il voit l'accomplissement du miracle, l'accomplissement de la parole au travers de ce miracle, il croit, lui et toute sa maisonnée. Et il faut reconnaître que ce processus se reproduit assez souvent, et aujourd'hui encore. C'est un besoin, besoin critique, besoin urgent, besoin de guérison, besoin... On est là face à une impossibilité, les hommes peuvent rien faire, les médecins peuvent rien faire, il y a là une crise et un besoin. Ensuite, il y a l'espérance, suite à la réception d'une bonne nouvelle, parce que quelqu'un nous a rendu témoignage, parce que quelqu'un a dit « Jésus est pas loin, il est là, Jésus est tout près ». Ensuite, il y a le cri du cœur qui vient dire « Au secours, Seigneur, viens, j'ai besoin de toi pour répondre à mon besoin ». Ensuite, il y a la foi dans cette parole de Jésus « Ton fils vit ». Il y a la foi dans la réponse que Jésus nous accorde. Ensuite, il y a l'épreuve de notre foi. Et dans cette épreuve de notre foi, si je fais la comparaison avec cette parabole des chemins, faire attention à ce qu'il n'y ait pas les oiseaux du ciel qui viennent comme ôter la semence qui est tombée sur le chemin, mais que là la semence puisse trouver une bonne terre et prendre racine et tenir ferme alors que la foi est éprouvée. Ensuite, il y a le miracle, mais le miracle c'est qu'un signe qui vient attester que ce que Jésus a dit est vrai et que Jésus est vrai et qu'il est réellement le sauveur du monde. Et en découle de cela une foi plus ferme, une foi plus forte, une foi plus profonde. En ce qui nous concerne, notre foi est à quel stade? Est-ce que nous ressemblons à cet homme qui avons besoin d'un miracle pour croire et que Jésus va nous dire ce soir, si vous ne voyez des prodiges et des miracles, vous ne croyez point? Est-ce que nous avons nous aussi besoin d'un miracle? Ou est-ce que nous pouvons dire, Seigneur, ta parole, je mets ma foi dans ta parole?
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.